Magasin Zinzin, Zinzin, le magasin.
Zinzin, le magasin radiophonique.
Zinzin, le magasin de l'attraction à la déesse. Élaborée dans la précipitation, la première voiture de grande série monocoque à traction avant connut un grand succès. Mais elle ne put sauver de la faillite André Citroën, qui mourut ruiné un an après sa sortie. Pour Citroën, c'est la 7, la 11, la 15. Pour tous les autres, c'est la traction. Une prouesse technologique orchestrée par une équipe de virtuoses. À leur tête, André Lefebvre, esprit brillant et audacieux, embauché en mars 1933 par André Citroën. C'est l'homme providentiel dont l'entreprise a alors besoin pour échapper à la faillite. L'ingénieur Lefebvre aime relever les défis. C'est donc sans regret qu'il a quitté Renault, où il s'ennuyait, pour rejoindre la marque au chevron. Le cahier des charges du projet PV pour petite voiture est aussi limpide qu'ambitieux. La future Citroën 7 sera une 7 chevaux économique, 7 litres au 100, légère, 800 kg, rapide, 100 km/h et sûre. Autant de critères qui imposent des solutions révolutionnaires. Une monocoque en acier remplacera le châssis traditionnel pour alléger la construction et le moteur adoptera des soupapes en tête pour offrir un rendement optimal. Enfin, la voiture sera à traction avant pour abaisser son centre de gravité et favoriser sa tenue de route.
Henri, ici André.
Oui.
J'ai décidé de moderniser la France. Faut que je te voie. Dans 3 jours. D'accord. Allez droit.
Monsieur André Citroën a vu Monsieur Ford Henri. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. Les ouvriers se précipitent quai de Javel pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de 100 à l'heure, déculbuteur, carburateur inversé. La monocoque ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans, homocinétiques. Voici les tractions avant. Et au salon, c'est l'affolement. Albert Lebrun, plein d'émotion, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est la traction universelle.
Allô, la tour Eiffel, passez-moi le patron. Allô Gustave, ici André.
Ouais,
j'ai décidé de démocratiser la France. Faut que je te voie. À 3h.
D'accord, je monterai chez toi.
Monsieur André Citroën illumine la tour Eiffel. C-I-T-R-O-E-N. Tout Paris la nuit en prend plein les prunelles. La publicité c'est le meilleur des hameçons pour pêcher la clientèle.
Chouette, il y a un nouveau produit de consommation. Tous les Français se précipitent quai de Javel. Les ouvriers, les PDG, les gangsters comme les flics, tous ont couru poser leur cul dans cette voiture démocratique. Voici les tractions avant et avant qui s'élancent à travers champs. National 7, Monte Carlo, pipi à la Roche-Pau. Malgré les trous et les cailloux, la route est à nous. Voici les tractions avant et avec leur moteur flottant. Après le trèfle, la Rosalie, la 11, c'est le dernier cri. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est l'attraction universelle.
Un pari fou. Cette technique est déjà connue grâce aux essais de l'Américain Cord en 1929 et de l'Allemand Adler en 1932. Mais sa mise en œuvre est loin d'être au point. Pour Citroën, le pari est d'autant plus fou qu'il y a urgence. André, le flamboyant patron, l'homme qui a inscrit son nom sur la tour Eiffel et envoyé ses autochenilles en Afrique et en Asie, a aussi misé des millions sur les champs de course et mal géré son entreprise. Ses créanciers hurlent sous ses fenêtres. La 7 est sa dernière chance de rééquilibrer ses comptes. Alors André Lefebvre s'appuie sur des pros qui vont faire merveille. Maurice Ceintura crée le premier moteur culbuté de série. Pierre Franchisé et Raoul Kinet développent la monocoque et Flaminio Bertoni trace des courbes élégantes de la carrosserie. Le délai est si court qu'il faut concevoir d'emblée la voiture définitive. Mais les problèmes succèdent aux problèmes. L'équipe se débat avec la boîte automatique imposée par le patron et doit convertir en pouces toutes les côtes avant de les envoyer chez l'Américain Budd qui fournit les matrices d'emboutissage de la carrosserie. Après des progrès à marche forcée, un prototype est testé fin 1933. Mais le temps passe trop vite. En février 1934, Citroën ne fait plus face à ses échéances et la justice est saisie. La cadence s'accélère encore. On renonce à la boîte automatique, remplacée par une boîte classique en quelques semaines. Et le 24 mars 1934, la 7 est enfin présentée. Son look racé fait grosse impression, surtout dans ses versions roadster et faux cabriolet. Les journalistes, les clients, la livraison débute le 3 mai, découvrent son admirable tenue de route, mais aussi les premiers pépins, car elle n'est pas au point. Qu'importe, elle remporte les concours d'élégance et focalise l'attention. Au salon de l'automobile d'octobre 1934, Citroën expose in extremis une gamme complète. La 7 est complétée par la 11, plus longue et plus large, et par la 22, un modèle de luxe tracté par un V8 de 100 chevaux. Encore une idée surgit du cerveau du patron. La dernière, car en décembre 1934, André Citroën doit céder sa société à Michelin. Pierre Boulanger, le nouveau boss, s'évertue alors à corriger les imperfections de la voiture. Il condamne la 22, mais lance la 15 qui est équipée d'un magnifique 6 cylindres. Débarrassée de ses défauts, la traction roule désormais vers son fabuleux destin qu'André Citroën ne connaîtra jamais. Épuisé, il s'éteint le 3 juillet 1935. Mais sa création va régner sans partage jusqu'au lancement de la DS en 1955. Convoité par tous, les hauts fonctionnaires et les patrons, les FFI et les collabos, les flics et les voyous, la traction deviendra le symbole de l'exception automobile française et imposera à jamais le nom de Citroën comme un label d'excellence routière. Thierry Amtas. Citroën DS, le génie français à son zénith. Truffée d'innovation, la soucoupe volante de la marque aux chevrons démoda toutes les voitures de son époque. Une soucoupe roulante. Au salon de l'auto 1955, Citroën présente la DS19, dont l'apparition relègue les autres modèles de l'époque au rang de dinosaures. Sur le stand, l'attroupement est énorme. Au premier soir, on a déjà enregistré 12 000 commandes. Silhouette aérodynamique, absence de calandre, immense surface vitrée, capot en alu, toit en fibre de verre, la DS était révolutionnaire. Avec sa planche de bord épurée, avec son volant monobranche et ses clignotants à hauteur du toit, elle s'apparentait à une sculpture. Grâce au styliste Flaminio Bertoni, l'automobile rejoignait l'art futuriste. Nommé par Michelin à la tête de Citroën, Pierre Boulanger, qui se tua sur la route en 1950, puis Pierre Berco avait remplacé la traction par une voiture tout aussi innovante. La gestation de la belle routière avait commencé en 1938 avec le projet de VGD, voiture de grande diffusion, qui devait succéder à la traction. La guerre l'interrompit, puis Citroën donna la priorité à la 2 chevaux. Quand les études reprirent, le responsable André Lefebvre privilégia les recherches sur la tenue de route et la suspension. On testa des ressorts en caoutchouc, puis des barres de torsion, jusqu'à ce que l'ingénieur Paul Magès opte pour un correcteur d'assiette oléopneumatique, adopté à l'arrière de la traction 15H, H pour hydropneumatique, il faisait appel à des sphères contenant un liquide et un gaz de l'azote commandé par une pompe haute pression. Adieu ressort, adieu amortisseur, le confort était si moelleux qu'à l'arrière, les gosses avaient le mal de mer, tandis que papa s'extasiait sur la tenue de route de sa DS. Si la voiture collait au bitume, même sous la pluie, elle le devait autant à la géométrie des roues plus écartées à l'avant qu'à l'arrière, qu'au mérite de la suspension. Ses qualités routières furent couronnées par 2 victoires au rallye de Monte-Carlo.
Je roule toute seule dans ma voiture. Les arbres défilent à toute allure. Je tiens le volant serré dans mes doigts. Et c'est toi que je tiens dans mes bras. Car par la pensée tu es là. Je roule toute seule dans ma voiture. Sérieuse, j'ai bouclé ma ceinture. Il est déjà tard, le cadran marque 6 heures. Pourtant, le compteur de vitesse, comme ma vie tourne à 100 à l'heure. Un virage, un pont, un premier en fleurs. J'aperçois ton visage dans le rétroviseur.
chef-d'œuvre technologique, la voiture tirait aussi parti de son système hydraulique pour assister à la direction et surtout le freinage, presque trop efficace. Autres innovations, les roues fixées par un seul écrou, les freins à disque à l'avant, une première, et la boîte de vitesse semi-automatique. Côté moteur, c'était moins glorieux. Citroën avait prévu d'équiper la DS d'un 6 cylindres à plat avant que Porsche ne conçoive le sien pour la 911. Aucun projet ne donna satisfaction et on se rabattit sur le vieux 4 cylindres 1911 cm3 de la traction qui ne développait que 75 chevaux. Il fallait écraser l'accélérateur pour lancer la DS à 140 km/h. Malgré sa mécanique, sa fiabilité décevante, la créature fit l'orgueil de ses propriétaires, car la DS était plus qu'une voiture. La nouvelle Citroën tombe manifestement du ciel dans la mesure où elle se présente comme un objet superlatif qui ne relève plus du bestiaire de la puissance, mais devient à la fois plus spirituel et plus objectif. Toujours son attribut de perfection, écrivait Roland Barthes dans Mythologie. La DS fut aussi adoubée par De Gaulle. Elle lui sauva la vie en 1962 lors de l'attentat du Petit Clamart en roulant malgré deux pneus crevés. Au cours de sa vie, la DS évolua. D'abord dès 1956 avec l'ID19 sans direction assistée dont la version break fut adoptée par les ambulanciers. Puis en 1961 avec le superbe cabriolet carrossé par Chaperon. La DS Palace rivalisait ensuite avec les belles allemandes. Mais il fallut attendre 1966 pour que la voiture dispose d'un moteur presque digne de son rang. À 109 chevaux, sa vitesse frisait les 175 km/h. En 1968, la DS se dota d'une nouvelle face avant équipée de phares à doubles optiques, dont une paire pivotée pour mieux éclairer les virages. Enfin, après avoir adopté l'injection électronique et une boîte 5 vitesses en option, elle se mua en DS23, forte de 141 chevaux, qui lui permettait d'atteindre 190 km/h. C'est juste après le premier choc pétrolier que la DS tira sa révérence et fut remplacée par la CX. Cette terrible chute de standing coïncida avec la faillite de Citroën reprise en 1976 par Peugeot. Depuis, la marque court après un haut de gamme prestigieux. Jean-Michel Cravi. Zinzin, le magasin ferme ses portes et ses portières, portières de Citroën, portières de traction et portières de DS. A bientôt sur AVR, je vous rappelle que Zinzin le magasin, c'est tous les samedis à 17h, les dimanches à 16h, et on peut retrouver tous les Zinzins sur le site rvrradio.fr en podcast.
C'était le Magasin Zinzin, une émission de Jacky Ming réalisée par Philippe Fest.